Bonjour, vous êtes bien sur CFM Radio dans l'émission Combien de temps encore. Alors aujourd'hui nous avons pour invité Lisa qui est une des trois fondatrices de la ferme refuge des Trois d'Inde dans le Tarn-et-Garonne à l'honneur de Causse. Donc elle va nous parler de cette ferme refuge et de son organisation. Bonjour Lisa, donc est-ce que vous pouvez nous présenter le refuge des Trois d'Inde? Et voilà, allez-y.
Ok, bonjour, je suis ravie d'être là. Alors le refuge des Trois d'Inde, en fait c'est un refuge qui a vu le jour en mai 2019, qui est dédié aux animaux de la ferme issus de maltraitance ou d'abandon. Donc on accueille dans notre refuge que les animaux dits de ferme, hein, donc pas les animaux domestiques type chien et chat. Parce que à la fois qu'on a créé le refuge, en fait, nous, notre but était vraiment de venir en aide à ces animaux-là qui sont bien souvent laissés pour compte par manque de structure. On se trouve dans le Tarn-et-Garonne, à l'honneur de Causse. Voilà.
Alors, pourquoi les Trois d'Inde, déjà le nom du refuge?
Alors, les Trois d'Inde, c'est parce qu'à l'origine du projet, on est trois nénettes. C'était une façon d'avoir un peu d'autodérision, mais aussi parce que ça reflète parfaitement notre vision et nos valeurs qui consistent en fait à ne pas faire de différence entre les espèces. Et l'Inde, c'est bien souvent considéré comme un plat de fête avant d'être considéré comme un animal, un individu à part entière. Donc on l'a choisi comme emblème pour montrer justement que nous, quelle que soit l'espèce de l'animal, on t'accueille bras ouverts comme les autres.
D'accord. Alors, je vais vous laisser donc développer les bases. Sur votre site, donc on mettra le lien du site sur le podcast de l'émission. Mais sur votre site, donc il y a justement un petit texte de présentation peut-être que je lirai tout à l'heure ou on en reparlera par rapport à d'autres thèmes qui m'intéressaient. Mais déjà peut-être présenter les grandes bases morales et éthiques sur lesquelles vous fondez le refuge en fait.
Alors nous, ce qui est très très important pour nous, c'est vraiment que chaque rescapé que l'on récupère puisse retrouver au sein du refuge au maximum les besoins fondamentaux de son espèce et à travers la semi-liberté pouvoir retrouver les instincts que bien souvent ils ont perdus à cause de l'homme. C'est des animaux qui ont été domestiqués depuis des années, mais qui au fond d'eux quand même portent l'héritage de leur espèce. Et donc ici, on leur permet de retrouver la capacité, par exemple, d'aller chercher leur nourriture dans la forêt, de pouvoir créer des liens sociaux entre eux, qu'il y ait une hiérarchie de troupeaux qui s'installe. C'est vraiment ce qui est très important pour nous.
D'accord. Voilà. Donc c'est ça. C'est vrai que c'est pas forcément. Vous avez combien d'hectares en tout?
Alors en tout, on a une trentaine d'hectares. Actuellement, on en a une quinzaine qui sont clôturés.
D'accord.
Donc les animaux sont sur 15 hectares. On essaye au maximum de les mettre tous ensemble. Après, il y a des espèces qui s'entendent de moins bien que d'autres, donc on va diviser certains parcs de manière à mettre les plus faibles à l'abri de ceux qui voudraient les dominer par la force. Mais vraiment, dans chaque parc, si un jour vous avez l'occasion de venir, vous verrez qu'il y a comme une micro-société qui s'est créée entre eux, où ils veillent chacun les uns sur les autres, où il y a des fortes têtes qui guident le troupeau. Donc, ils sont sur une quinzaine d'hectares.
D'accord. Et donc, en fait, vous mettez plusieurs espèces, si elles s'entendent bien, donc, entre elles. Enfin, vous les laissez... Oui, c'est ça, c'est super intéressant parce que c'est pas forcément le cas en général dans les autres refuges. Ça doit être. Et vous faites comment quand il y a un nouveau venu? Comment ça se passe de manière pratique pour le présent? Parce que avec les chiens, c'est pas évident quand il y a un nouveau chien qui arrive. Donc je pense que c'est exactement pareil.
C'est pareil pour toutes les espèces. Il y a toujours déjà dans un premier temps quand on reçoit un animal, il est en quarantaine. Le temps qu'on puisse vérifier qu'il est sain, qu'il ne puisse pas amener de maladie aux autres, qu'on le déparasite, parce que bien souvent l'état dans lequel on le récupère, c'est pas très joli, donc ils ont des fois des maladies, des parasites, des plaies. Hein. Donc une fois que l'animal est sain, qu'on l'a soigné, eh bien on va, selon l'espèce, par exemple les cochons, on va le mettre dans un parc d'adaptation qui est séparé par un grillage des autres cochons, de manière à ce qu'ils puissent faire connaissance. Et au bout de quelques jours, si on voit que ça se passe bien, on les met ensemble. Et de même pour les chèvres et pour les moutons. Des fois, c'est un peu... ça fait peur, hein. Des fois, on croise les doigts en tout cas, espérant qu'il n'y aura pas de bagarre. Ouais. On reste là et à chaque fois qu'on prévoit d'intégrer un nouvel animal, on prévoit de le faire le matin, de manière à pouvoir être toute la journée là, à surveiller ce qui se passe. Et surtout, on le fait les journées en semaine, de manière à ce que le vétérinaire puisse intervenir tout de suite si jamais il y a un problème.
D'accord. Mais vous mettez donc des espèces différentes, des cochons avec des chèvres ou des moutons, avec des ânes, vous les...
Oui.
Voilà, d'accord.
Les cochons, c'est un peu particulier. On les a mis tout seuls parce qu'ils ont vraiment besoin d'une clôture spécifique. Surtout qu'on a des femelles et donc on a vraiment barricadé l'enclos de manière à ce que les sangliers ne puissent pas rentrer dans le parc. Ça, c'est une problématique quand les femelles sont en chaleur. Hein. Mais sinon, les autres, oui, on a mis les ânes avec les chèvres.
D'accord.
Parce qu'ils s'entendent très très bien. C'est des espèces qui sont complémentaires en plus. On a mis les moutons avec les chevaux, parce que c'est pareil, elles s'entendent très bien comme espèce, elles sont complémentaires en termes de nourriture aussi. Et ça fonctionne super bien comme ça.
D'accord. Et ce qui permet donc leur donner plus de superficie à chaque groupe créé. Ils peuvent comme ça, plutôt que d'être moins en parcelle, plus il y a de superficie pour chacun des groupes. D'accord. Ah oui, ok. Donc c'est super.
C'est ça. Puis la problématique en plus, c'était qu'il y ait vraiment des abris pour tout le monde. Et donc le fait qu'ils soient tous ensemble, en fait, ils se regroupent le soir pour être nourris, le matin aussi, dans les abris qu'on a constitués. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, notamment les mutilations des animaux, mais c'est pour nous l'assurance de les avoir tous regroupés autour des maisons le soir en fait.
Oui, d'accord. Oui. Et comme ça, au début, les nouveaux arrivants, ça leur permet peut-être de mieux faire connaissance aussi, le fait d'être regroupés le soir avec leurs compagnons en fait.
Oui, parce que effectivement, quand on a des grands parcs qui font par exemple 5 hectares, je pense au parc des chèvres, sur 5 hectares, quand un nouveau arrive, il peut vite se perdre. Donc, c'est important de pouvoir les rassembler le matin, de les rassembler à nouveau le soir pour vérifier que le nouveau c'est pas perdu, qu'il est bien là. Ou des fois, on les accompagne carrément faire tout le tour du parc parce qu'on sent qu'il n'est pas très à l'aise. Enfin, c'est une gestion un peu particulière, quoi. Il faut être à l'écoute de chaque individu.
D'accord. Donc voilà, ça revient un petit peu à... Alors, on va faire une pause. On abordera après le thème qui découle un petit peu de cette présentation. On fait une petite pause musicale et on reprend juste après.
À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Seigneur. À qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez Joséphine, osez, osez Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit. Usez le sourire, usez le sourire, soyez ma muse. Et que le dur que les moments doux, dur que les moments doux. Et que le dur. Oh. plus. Mais rien ne s'oppose à la nuit. Rien n'est juste qui vit. Osez, osez. Joséphine, osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit.
Alors vous êtes bien sur CFM Radio, dans l'émission Combien de temps encore, et on reprend donc notre entretien avec Lisa, qui est donc qui représente et qui a fondé et qui fait partie des trois personnes qui ont fondé le refuge des Trois Dindes dans le Tarn-et-Garonne. Donc voilà, on reprend par rapport justement au fait de vouloir, voilà, d'essayer vraiment de les rendre le plus indépendant possible de l'homme, qui retrouve vraiment des facultés qu'ils avaient avant la domestication, avec voilà un espace large, puisqu'en plus on arrive à mettre plusieurs espèces ensemble, ça fait que chaque petit groupe a de plus en plus d'espace, et ça me permet d'aborder le thème de, alors, du réensauvagement, peut-être pas au sens où on l'entend, parce que le réensauvagement, c'est, je crois que les normes, c'est des espaces qui font au minimum 2000 hectares. Et Yellowstone, par exemple, ça fait 900 000 hectares. Donc, voilà. c'est superbe, c'est magnifique, mais bon, voilà. Pour l'instant, voilà. Sans parler du du réensauvagement à proprement parler, où c'est vraiment des superficies immenses qui sont restituées aux animaux hors humains et hors activité humaine. Bon, ça c'est vraiment, voilà, c'est l'idéal, mais avec des superficies plus petites, comment justement, enfin voilà, c'est ce que un petit peu ce que vous faites, on peut donc en fait envisager un, entre guillemets, réensauvagement, ou en tout cas leur voilà, un peu les délester de la dépendance de l'humain, en fait, voilà, leur apprendre à se retrouver un peu la nourriture tout seul, être indépendant, retrouver les hiérarchies entre eux, enfin voilà, donc ça c'est visiblement c'est possible, en fait.
Oui, alors pas sur tous les points, mais effectivement, quand vous me parlez de hiérarchie, c'est exactement ça, c'est-à-dire que nous on est au maximum de pas les polluer et de les laisser évoluer entre eux, de manière à ce que vraiment les liens qui se créent, les hiérarchies qui s'installent, ne soient pas influencées par notre présence. Après, il y a quand même, disons que c'est à double tranchant, parce que tous les animaux que l'on a au refuge, même si au départ ils ont un vécu très compliqué, on est obligé de les sociabiliser de manière à pouvoir leur prodiguer les soins vétérinaires en cas de besoin. Et il faut savoir aussi qu'il y a des besoins spécifiques que malheureusement, par le manque de surface, eh bien, ils ne vont pas pouvoir seuls subvenir à ces besoins-là. Par exemple, je pense aux équidés. On a vraiment besoin de faire intervenir le maréchal assez souvent parce que les sabots poussent trop, parce qu'ils sont trop sédentaires par rapport aux besoins qu'ils auraient à l'origine. Donc, ces soins-là, on est quand même obligé de leur apporter. Et après, selon les saisons aussi, ils ne peuvent pas se déplacer pour trouver suffisamment de nourriture. Donc, on est toujours là à veiller à ce qu'ils aient suffisamment d'apports nutritifs, notamment du foin toute l'année et par période, on est quand même obligé de les complémenter.
D'accord.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'on essaie au maximum de les laisser vivre leur vie de chèvre, de mouton, de cochon ou d'âne.
D'accord, voilà, oui. Donc après, effectivement, sur des petites surfaces, un véritable réensauvagement n'est pas possible, parce que c'est ce que vous dites, quoi. Ne serait-ce que les, il n'y a pas assez de surface pour qu'ils puissent se déplacer, trouver leur nourriture. Quand il n'y en a pas assez, ils vont ailleurs. Donc voilà. Ça, c'est la surface qui restreint un peu les choses. Et vous disiez aussi qu'il y avait, donc pas mal de séances aussi, ne serait-ce que pour les soins vétérinaires. Et puis peut-être aussi pour soigner les traumatismes par rapport à ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est quand même des animaux qui ont souvent vécu des choses très difficiles. Donc il y avait, il y a des ateliers. Quand j'ai un peu regardé la présentation, il y avait donc des ateliers de, alors attendez,
de calinothérapie.
Oh, voilà, calinothérapie.
Donc, c'est ça. Alors oui, c'est un terme doux qu'on a employé parce que même si on n'arrive pas tout de suite à leur faire des câlins, hein, parce que sincèrement, quand ils ont été maltraités, le contact est difficile. Mais c'est des ateliers qu'on met en place pour permettre une approche plus facile et surtout rassurer l'animal pour qu'il reprenne confiance en l'être humain. Parce qu'il a connu des choses difficiles, il a été victime de la main de l'homme et aujourd'hui on leur apprend que voilà, au refuge ils sont en sécurité même au contact des hommes et que justement les hommes vont être là pour leur apporter du bien-être, de la nourriture, des soins. Donc on met ces ateliers-là en place. Mais c'est très adapté à chaque individu parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes traumatismes, mais pas tous la même façon hein, d'être approchés non plus.
Et puis pour un justement pour s'ils veulent profiter au maximum de l'espace et de la semi-liberté, peut-être aussi voilà leur rétablir un peu un équilibre psychologique qui a été fortement perturbé. Et ça permet aussi que bon ils arrivent. S'ils arrivent à se reposer un peu en eux-mêmes, voilà, remettre un peu les choses à leur place, en eux-mêmes, ça va leur permettre de voilà de mieux apprécier la vie qu'on leur offre après.
Complètement. On a notamment récupéré des animaux qui venaient d'un cirque, donc des chèvres et une ânesse. En fait, les chèvres, ça nous a beaucoup marqué parce que elles ont passé leur vie en caisse de transport, elles allaient de spectacle en spectacle. Et quand on les a mis au refuge, je pense que ça a été peut-être la réhabilitation la plus difficile. Pourtant, elles n'ont pas forcément été battues ou quoi que ce soit, mais elles ne connaissaient rien de la vie en extérieur. Mais vraiment rien du tout. Du coup, on les a appris petit à petit à apprécier le fait d'être en extérieur, à apprécier les grands espaces, à ne pas avoir peur d'un arbre qui bouge avec le vent. C'est fou quand même de devoir apprendre un animal qui est fait pour ça, de devoir lui apprendre qu'en fait l'extérieur n'est pas une menace.
C'est possible qu'elle reprenne petit à petit, qu'elle retrouve.
Complètement. D'ailleurs, ça, après, une fois qu'ils ont le déclic, c'est assez rapide. Maintenant, elles sont dans le troupeau, complètement intégrées. C'est marrant parce que les trois ont le même parcours, n'ont pas du tout le même comportement. Il y en a une, ça va être un peu celle qui va veiller à ce que l'équilibre du troupeau soit toujours maintenu. Elle ne supporte pas le conflit. Elle va aller tout de suite s'interposer entre deux chèvres qui se bagarrent.
C'est super.
Il y en a une autre, c'est un peu l'acrobate, celle qui fait des bêtises, qui monte partout. Dès qu'il y a une clôture où il y a peut-être une petite faiblesse, elle le sent tout de suite et puis alors elle s'engouffre dedans. Et puis il y a la troisième qui, elle, Katia, elle s'appelle, elle a 13 ans, elle a passé toute sa vie dans le cirque, et elle, on voit qu'elle profite, elle se prélasse, elle fait des grandes siestes au soleil, c'est merveilleux.
C'est super, C'est pour ça que ça me fait rebondir tout de suite, quand on dit les animaux dans les cirques, les animaux sauvages, c'est inadmissible. Mais quand certaines personnes disent oui, mais après, oh les chiens, les chèvres, ça c'est pas grave. Mais c'est pareil. Et là, d'après votre témoignage, c'est vraiment l'exemple type que même une chèvre peut, elle a une vie elle a des séquelles énormes. Après, justement, qu'elle peut surmonter, mais elle en sort pas indemne de cette vie de cirque. Donc les animaux sauvages ou domestiques n'ont rien à faire dans les cirques, de toute façon.
Ça, c'est un sujet qui est très délicat, mais effectivement, même pour l'avoir vécu, nous, avec des chèvres, on s'aperçoit que c'est tellement pas adapté, en fait, à leurs besoins, que ça modifie complètement le comportement de l'animal, et il ne peut pas trouver un équilibre dans un milieu qui n'est pas adapté à son espèce, parce que même si il arrive une d'autres, que de toutes petites, elles sont élevées comme ça, mais on voit très vite qu'elles ont un instinct qui demande de s'épanouir. Et là, c'est ce qu'elles vivent ici. Donc, c'est vrai que les animaux sauvages, c'est une très belle évolution si on arrive à les interdire. Mais les autres, c'est la même chose.
Pour moi, c'est pareil, oui.
Ben ouais.
Pour moi, c'est pareil.
Aussi, aussi bien un chien qu'une chèvre ou qu'un âne, ils ont des besoins spécifiques qui leur sont propres. Et ils méritent d'avoir la vie en accord avec ça, quoi.
Oui, oui, oui. Pour moi, c'est le problème est le même, en fait. C'est des individus qu'on force à, qu'on maintient dans une captivité plus que stressante, hein, voire violente. Donc, que ce soit, voilà, les animaux sauvages, mais les animaux dits domestiques, pour moi, le problème est le même, hein. Enfin, voilà. Et avec justement le fait qu'ils arrivent tout à fait à reprendre et à retrouver leur nature.
Oui.
Donc même un lion, ou quand on dit les, parce que souvent les circassiens disent que ouais, mais les lions sont en captivité, donc ils sont très bien en cage. C'est complètement faux.
Un lion. Ils n'ont pas le choix, c'est tout.
Ouais, c'est tout. C'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Donc un lion né en cage, si on le remet dans un sanctuaire dans son pays, il va très vite retrouver sa vie, sa vraie vie, en fait, tout simplement.
Mais oui, bien sûr, ça coule dans son sang. Cette envie de liberté. C'est en lui, ça.
Tout être vivant doit avoir le droit de vivre sa propre vie, donc qu'il soit humain ou non humain. Donc le principe, il est là, en fait, à la base.
C'est ça.
Sinon, alors on va faire une pause avant d'autres thèmes qu'on va aborder absolument par rapport au refuge. On fait une pause musicale et ensuite on reprend tout de suite après.
À tout de suite.
Thank you.
êtes bien sur CFM Radio et donc on reprend notre entretien avec Lisa de la ferme refuge Les Trois Daims dans le Tarn-et-Garonne. Alors, par rapport au refuge, il y avait, alors moi il y avait plusieurs questions qu'on va aborder un peu dans l'ordre que vous voulez. C'était ben, déjà, comment on peut, est-ce qu'on peut vous contacter directement par rapport à un sauvetage, comment on fait si, donc je pense que c'est d'abord la gendarmerie, hein, je crois que la démarche légale c'est la gendarmerie qui après contacte les associations. Et d'autre part, très important, comment peut-on vous aider? Il y a aussi la notion de parrainage. Et je crois qu'il y a aussi, vous avez édité un livret. Donc ça, je, voilà, oui. Voilà. Donc, bah, vous abordez dans le sens que vous voulez.
Alors, je vais essayer de rien oublier. Effectivement, quand on est témoin d'un cas de maltraitance, on peut contacter d'abord la gendarmerie, et ensuite laisser faire les gendarmes pour qu'ils nous contactent. Mais il faut savoir que souvent, ça bouge pas très vite. Donc, si les personnes sont témoins d'un cas de maltraitance, ils peuvent tout à fait nous le signaler par mail. Donc, il y a toutes nos coordonnées hein, sur le site. Et si, par exemple, c'est au-delà de notre compétence, on fera les démarches, ou du moins, on aiguillera les personnes sur comment faire pour régler ce problème-là.
D'accord,
donc,
ça, c'est important.
Donc, on reste
quand
même soignable pour ce genre de choses. Parce d'accord. Que c'est important que, dans tous les cas, l'animal arrive à sortir de cette maltraitance.
D'accord. Donc, on peut quand même, voilà, parce que souvent, c'est vrai que la démarche et la gendarmerie, c'est ce que vous dites, en général, bah, c'est très long avant que ça bouge. Pas forcément, hein, pas dans tous les cas de figure, mais c'est malheureusement ce qui arrive un peu souvent. Donc, on peut vous contacter, vous, et vous, après, bah, soit vous pouvez peut-être faire activer un peu plus les choses. Ou, voilà, donc ça, c'est important pour les auditeurs. On
mais
peut
voilà,
vous contacter. D'accord.
Que les gendarmes ont énormément de choses à traiter. Donc, ils vont faire par priorité, ce qui est tout à fait normal. Et nous, la protection animale, c'est notre priorité. Donc, c'est pour ça que des fois, le temps de réaction n'est pas le même. C'est vraiment notre domaine. Du coup, évidemment, on est là, on est à l'écoute. Et puis, après, on travaille avec d'autres associations. Donc, dans tous les cas, si c'est quelque chose que nous, on ne peut pas gérer, sur lequel on ne peut pas intervenir, on pourra aiguiller les personnes sur le bon service, par exemple, ou la bonne institution.
D'accord, d'accord. Donc, maintenant, comment, bah, comment vous aider au niveau d'un point de vue pratique?
Alors, il faut comprendre que, en fait, même si on s'implique énormément sur le terrain auprès des animaux, le nerf de la guerre, malheureusement, pour leur prodiguer les soins et la nourriture, c'est l'argent. Donc, pour ça, on a mis en place plusieurs choses. Il faut savoir que nous, on vit essentiellement des dons, hein, donc des adhésions des gens. Donc, sur notre site internet, à la rubrique adhésion, vous allez pouvoir trouver toutes les démarches pour pouvoir adhérer à l'asso et nous faire un don. À savoir que les dons sont défiscalisables, hein, à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers. Après, on a mis en place aussi un principe de parrainage. Alors ça, c'est le top parce que ça va vous permettre à vous de vous impliquer dans la vie d'un rescapé, de votre chouchou, de celui qui vous a le plus marqué. Et vous allez contribuer du coup tous les mois à ses soins, à sa nourriture, en nous aidant à nous financièrement. Ça me permet... du coup, d'avoir le statut de parrain, vous recevez un certificat de parrainage avec la photo de l'animal et des photos à la demande. Vous pouvez lui rendre visite si vous êtes dans le coin. Si vous êtes loin, c'est pas grave, on vous envoie des photos. Et également, on a mis en place un projet pédagogique avec l'Institut à Montauban. Grâce à une professeure d'art plastique qui est membre du refuge, on a rédigé une histoire de Canichon, notre tout premier rescapé. Et ce sont les élèves de l'Institut qui ont illustré l'histoire. Et donc, c'est un petit livret qui est en vente au refuge au prix de 5 euros. On l'expédie aussi. Et c'est le début pour nous, je pense, d'une longue série de rescue stories. Donc, on est en train d'écrire la deuxième. Et c'est une façon de récolter des fonds, mais en donnant en échange vraiment du concret, une histoire qui relate le parcours de notre premier rescapé. Voilà.
D'accord. Donc ça, et ce livret, on peut le, il est en vente, on peut le commander sur le site.
Oui, alors on peut déjà soit venir l'acheter au refuge sur rendez-vous en nous appelant avant, ou alors nous envoyer un mail pour nous demander, je sais pas si vous en voulez deux ou trois par exemple, et nous derrière, on prend le relais, on a une personne qui est détachée exprès pour ça et qui gère les expéditions.
D'accord. Et ça peut aussi intéresser d'ailleurs peut-être des enseignants ou des sur des projets pédagogiques qui pourraient...
En fait, on est ouverte vraiment à toutes les propositions. Sur cet exemplaire-là, on en a 3000, donc on va pouvoir déjà satisfaire pas mal de monde. Et on va essayer d'en faire régulièrement, parce que peut-être collaborer avec une école qui ferait un suivi sur les différentes parutions des histoires de nos rescapés, donc pourquoi pas. Oui, bien sûr.
Voilà, donc ça peut aussi voilà être une porte intéressante pour des activités avec des écoles dans la région.
C'est ça. Okay. Bon là, il se trouve qu'avec le Covid, on est limité dans nos projets, mais on avait prévu de faire des visites justement du refuge avec un atelier sensibilisation des enfants à la condition animale et la possibilité justement de rencontrer Calichon, l'héroïne de ce premier livret.
D'accord, d'accord. Oui, c'est vrai que ça serait vraiment important que dans les écoles et dans les collèges, il y ait ce type de, voilà, de sensibilisation en se déplaçant.
Et j'ai fait une intervention la semaine dernière sur une école de Montauban et j'ai trouvé ça super parce que l'institutrice avait bien préparé le rendez-vous. Les élèves étaient super à l'écoute, ils avaient préparé plein de questions et j'adore ça parce que on voit que les enfants cherchent à faire leur propre avis vis-à-vis de la condition animale, vis-à-vis des sujets sensibles tels que le cirque. Et c'est important de les amener à faire eux-mêmes leurs propres réflexions sans les influencer dans leur choix. Mais j'ai trouvé ça vraiment super.
D'accord. Donc ça peut, voilà, ça peut être. Donc de toute façon, nous on va sur le podcast, il y aura le lien, voilà, tous les le lien de votre site. Et après sur votre site, on peut, voilà, c'est ce que vous disiez, il y a toutes les, voilà, toutes les possibilités de trouver les renseignements.
Voilà. Et de... Il y a toujours une personne qui sera là pour répondre par mail ou par téléphone. On a mis en place une organisation de manière à être très réactive là-dessus.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres voilà d'autres éléments qu'on n'aurait pas abordés que vous souhaiteriez
Je pense qu'on a fait le tour quand même, c'est assez complet. Moi, je tenais juste à préciser une chose, c'est qu'il est important quand on est témoin d'une maltraitance de ne pas rester silencieux, parce que on demande pas de faire de la délation. C'est juste sauver une vie, quoi. Et bien souvent, on arrive sur des cas de maltraitance qu'on n'arrive pas, à sauver l'animal parce que c'est allé trop loin et qu'il a développé des pathologies qu'on ne peut pas soigner. Alors, s'il vous plaît, si vous voyez un animal qui est maltraité, qui manque de soins, qui est maigre dans un champ, ou qui a des sabots en bas bouche, comme on le voit souvent sur des équidés, n'hésitez pas à le signaler parce que parfois, c'est juste de l'ignorance de la part du propriétaire. Donc, en allant lui rendre visite, en lui expliquant les besoins de l'animal, il prend conscience qu'effectivement, il a besoin d'apporter plus de soins à son animal. Mais des fois, malheureusement, c'est de la maltraitance volontaire et si on n'intervient pas, ben, l'animal meurt de ses souffrances.
Oui, ouais, ouais, ça c'est vraiment important. Ouais. Que chacun se responsabilise par rapport à ce genre de situation, en fait.
Ouais. C'est ça. Ouais. Il faut savoir aussi une chose sur laquelle j'ai vraiment envie d'appuyer, c'est que quand on intervient, avant de prendre une décision, on va vraiment creuser, savoir ce qui se passe. Parce que parfois, les gens sont eux-mêmes dans la détresse et ils font pas de mal aux animaux volontairement. Et il faut vraiment savoir qu'il faut pas avoir peur de nous signaler un cas de maltraitance, ou du moins que vous soupçonnez comme étant de la maltraitance. Parce que dans tous les cas, on va pas tout de suite accabler le propriétaire, on va quand même chercher à savoir ce qu'il y a derrière le problème.
Ça peut être même une aide, lui apporter une aide parce que qu'il est complètement dépassé et que ça peut être aussi parfois ces cas de figure. Ça peut arriver aussi.
Bien sûr. Ouais. Il y a beaucoup de cas, surtout sur ces gros animaux, où en fait les propriétaires sont déjà eux-mêmes tellement dans la détresse que malheureusement l'animal passe après tout le reste, quoi.
Donc, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Après, je vous dis s'il y a d'autres points qu'on n'aurait pas abordés, mais je pense que là, vous avez combien de pensionnaires en tout, alors, finalement vous avez, oui, au niveau des pensionnaires, il y a donc des chèvres, des moutons, des équidés,
des ânes, voilà, des cochons, des chevaux et des poneys.
D'accord. Des chiens, vous avez, mais vos chiens à vous, en fait, il n'y a pas du tout de chiens ou de chats, c'est ce que vous disiez au début.
C'est ça. En fait, On a des chiens qu'on a sauvés à titre personnel.
Oui.
Mais notre association n'a pas la vocation de prendre en charge les animaux domestiques. Hein, donc, c'est essentiellement les animaux de la ferme. Oui.
D'accord. Et les chats? Les chats sauvages qui...
Alors, pour les chats, mais tiens, c'est un sujet, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. On ne prend pas en charge les chats, mais par contre, on a des bénévoles du refuge qui interviennent sur place, notamment à Montauban, par exemple. Elles vont s'occuper des chats errants. Elles les nourrissent de manière à pouvoir les apprivoiser, de manière à pouvoir faire des campagnes de stérilisation.
Donc oui, d'accord.
On les a mis chez les vétérinaires.
Oui.
Mais on ne peut pas les prendre en charge au refuge. Par contre, on essaye, comme on peut à notre échelle, de leur apporter cette aide sur le terrain.
D'accord, d'accord. Parce qu'après, voilà. En même temps, les chats... les chats dits sauvages, bon, si après il y a une stérilisation, tant mieux. Mais c'est, je trouve que c'est un animal qui a su en même temps rester sauvage. Et c'est bien aussi de, bon, malheureusement, il est souvent en proie à des maltraitances ou des tirs ou oui. Voilà. Le problème est là en fait. Mais le fait d'être un chat, de vivre sa propre vie en liberté, c'est un des rares animaux dit de compagnie ou de métier qui arrive à tirer son épingle du jeu et pouvoir rester libre. Il y a beaucoup de chats qui sont des chats libres dans les campagnes et moi je trouve que c'est aussi un aspect qui est intéressant et que si c'est juste leur apporter un peu de nourriture quand voilà il fait très froid, mais après leur laisser cette possibilité de rester des chats libres, je trouve que c'est bien aussi en fait. Après, le problème, c'est la surpopulation des chats et le fait que, malheureusement, ils sont parfois victimes de maltraitance. Mais le principe, voilà.
Il y a quand même l'aspect aussi santé. On voit des chats qui sont à l'état sauvage, mais qui, malheureusement, vont développer du coryza, par exemple.
Oui, oui.
Et sans l'intervention de l'homme, ils vont mourir dans des souffrances atroces,
oui.
Si c'est la loi de la nature. Hein.
Oui.
Mais bon, ça reste quand même un souci aussi, la surpopulation, bien sûr, parce que une surpopulation de chats va amener derrière la haine d'une certaine catégorie de la population aussi, envers les chats. Donc, si au moins on peut les stériliser en les laissant vivre leur vie, ben c'est déjà énorme, je trouve.
Oui. C'est une des solutions possibles, en tout cas.
Oui, après, il y a des associations vraiment spécialisées dans les chats qui vous en parleront certainement beaucoup mieux que moi. Mais voilà, nous, à notre échelle, au moins, on essaye en ville, à Montauban, de les sociabiliser pour pouvoir les amener à la stérilisation.
Oui.
En vue qu'ils soient confiés à d'autres refuges, justement, à d'autres assos qui s'occupent déjà pour les replacer ensuite.
D'accord. Je pense qu'on a, là, on a fait le point. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite... bonne chance, plein de courage et plein d'espoir. Voilà.
Et tout le courage et l'espoir, c'est nous rescapés qui nous
donne. Oui, oui. Je pense que oui. L'énergie vient de... Oui. D'accord.
Ah ouais.
En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Et puis à bientôt, en tout cas.
Merci à vous, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Alors juste après la pause musicale, je vous lirai un extrait d'un texte de Sylvain Tesson, un extrait de La Panthère des Neiges.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning, it's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to. time, the world's behind you. There's always someone around you who will come. It's nothing at all.
Vous êtes bien sur CFM Radio, donc on vient de passer un moment avec Lisa, de la ferme refuge des Trois Dindes. Et avant de conclure cette émission, je vais vous lire un extrait d'un texte de Sylvain Tesson, extrait de La Panthère des Neiges. Et comme le temps largement ouvert accueillait la malaxation des pensées, je me disais que cette science de l'affût à laquelle m'avait initié Meunier était l'antidote à l'épilepsie de mon époque. En 2019, l'humanité pré-cyborg ne consentait plus au réel, ne s'en satisfaisait pas, ne s'y accordait, ni ne savait s'y assortir. Ici, à Notre-Dame de l'Attente, je demandais au monde de continuer à pourvoir ce qui était déjà en place. En ce début de siècle 21, nous autres, 8 milliards d'humains, asservissions la nature avec passion. Nous lessivions les sols, acidifions les eaux, asphyxions les airs. Un rapport de la Société zoologique britannique établissait à 60% la proportion d'espèces sauvages disparues en 5 décennies. Le monde reculait, la vie se retirait, les dieux se cachaient. La race humaine, elle, se portait bien. Elle bâtissait les conditions de son enfer, s'apprêtait à franchir la barre des 10 milliards. Les plus optimistes se félicitaient de la possibilité d'un globe peuplé de 14 milliards d'hommes. Si la vie se résumait à l'assouvissement des besoins biologiques en vue de la reproduction de l'espèce, la perspective était effectivement encourageante. Nous pourrions copuler dans des cubes de béton connectés au Wi-Fi en mangeant des insectes. Mais si l'on demandait à notre passage sur la Terre sa part de beauté, et si la vie était une partie jouée dans un jardin magique, la disparition des bêtes s'avérait une nouvelle atroce, la pire de toutes. Elle avait été accueillie dans l'indifférence. Le cheminot défend le cheminot. L'homme se préoccupe de l'homme. L'humanisme est un syndicalisme comme un autre. La dégradation du monde s'accompagnait d'une espérance frénétique en un avenir meilleur. Plus le réel se dégradait, plus retentissaient les imprécations messianiques. Il y avait un lien proportionnel entre la dévastation du vivant et le double mouvement d'oubli du passé et de supplique à l'avenir. Demain mieux qu'aujourd'hui, slogan hideux de la modernité. Les hommes politiques promettaient des réformes. Le changement, jappait-il. Les croyants attendaient une vie éternelle. Les laborantins de la Silicon Valley nous annonçaient un homme augmenté. En bref, il fallait patienter. Les lendemains chanteraient. C'était la même rengaine. Puisque ce monde est bousillé, ménageons nos issues de secours. Hommes de science, hommes politiques et hommes de foi se pressaient au portillon des espérances. En revanche, pour conserver ce qui nous avait été remis, il n'y avait pas grand monde. Ici, un tribun de barricade appelait à la révolution et ses troupes déferlaient avec la pioche au poing. Ici, un prophète invoquait l'au-delà et ses ouailles se prosternaient devant la promesse. Ici, un fol amour 2.0 fomentait la mutation post-humaine et ses clients s'entichaient de fétiches technologiques. Les hommes vivaient sur des oursins. Ils ne supportaient pas leurs conditions. Et de cette outre-vie, ils attendaient les bienfaits, mais ne connaissaient pas la forme. Il est plus difficile de vénérer ce dont on jouit déjà que de rêvasser à décrocher les lunes. Les trois instances, foi révolutionnaire, espérance messianique, arraisonnement technologique, cachaient derrière le discours du salut une indifférence profonde au présent. Pire, elle nous épargnait de nous conduire noblement, ici et maintenant. Nous économisait de ménager ce qui tenait encore debout. Pendant ce temps, fonte des glaces, plastification, mort des bêtes. Fabuler d'un autre monde que le nôtre n'a aucun sens. J'avais noté cette fusée de Nietzsche en exergue d'un petit calepin de notes. J'aurais pu la graver à l'entrée de notre grotte. Une devise pour les vallons. Nous étions nombreux, dans les grottes et dans les villes, à ne pas désirer un monde augmenté, mais un monde célébré dans son juste partage. Patrie de sa seule gloire. Une montagne, un ciel affolé de lumière, des chasses de nuages et un yak sur l'arête. Tout était disposé, suffisant. Ce qui ne se voyait pas était susceptible de surgir. Ce qui ne surgissait pas avait su se cacher. C'était là le consentement païen, chanson antique. « Léo, je te résume le credo, dis-je. J'écoute, dit-il poliment. Vénérer ce qui se tient devant nous, ne rien attendre, se souvenir beaucoup, se garder des espérances fumées au-dessus des ruines, jouir de ce qui s'offre, chercher les symboles et croire la poésie plus solide que la foi, se contenter du monde, lutter pour qu'il demeure. » Les champions de l'espérance appellent résignation notre consentement. Ils se trompent, c'est l'amour. Voilà, donc un extrait de La Panthère des Neiges, de Sylvain Tesson, son dernier roman. Sur la valeur de l'instant, la beauté du monde et le respect de tous les êtres vivants. Alors avant de conclure cette émission, je voudrais juste vous signaler une actualité importante. Voilà, il y a un site, le site de One Voice, où il y a vraiment beaucoup de choses, et notamment alors des pétitions à signer. Et il y a notamment en ce moment, le 21 novembre, dans plusieurs villes de France, il y aura une manifestation statique avec juste des panneaux pour sensibiliser le public à l'horreur qui se cache derrière la douceur des pulls angora, parce que l'épilation des lapins angora, c'est un véritable calvaire, ça dure plus de 45 minutes et c'est répété 3 ou 4 fois par an. Donc voilà, je allez sur le site de One Voice, mais c'est voilà, il y a des pétitions à signer et surtout ben voilà, la seule solution vraiment qui pourra marcher, c'est de voilà, c'est de s'abstenir d'acheter des pulls en laine angora, hein, parce que c'est vraiment ce qui se cache derrière est absolument abominable. Voilà. On se retrouve de toute façon, on se retrouve le mois prochain sur CFM et je vous souhaite une belle soirée.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before He can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.